Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais et depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone.
J'ai envie de créer un environnement sain et un environnement où il y a de l'amour, où on s'attache et où on prend du temps les uns pour les autres. Et donc j'ai compris qu'il fallait mettre autant de soins dans ces relations qu'on peut en mettre dans son business. Sur le long terme, les relations, c'est ce qui est le plus important, tu vois. Et je trouve que c'est très difficile de penser correctement si tu n'écris pas. Si tu veux, moi, mon objectif, c'est de construire un business qui peut durer.
Quel a été le moment le plus difficile de ton aventure ?
Il y a eu plusieurs choses. Moi, je préfère le gars un peu moins perfectionniste qui lance des choses imparfaites mais qui durent. Donc aujourd'hui, j'accorde autant d'importance, si tu veux, à la préservation de mon mental que à la préservation de mon physique.
Salut Antoine, comment tu vas ?
Salut François, ça va super, merci pour l'invitation.
Bah écoute, avec plaisir. C'est le premier épisode d'une longue série, j'espère, d'un format assez nouveau sur Serial Entrepreneur. L'idée, c'est de voir, déjà on est sur un deuxième épisode quelques années après. Nous, quand on s'est vus, c'était en septembre 2019, donc il y a presque 4 ans. Le podcast avait été publié en novembre 2019. Du coup, on ne va pas refaire ton parcours, etc., puisque ça, les gens pourront le voir sur cet épisode. Mais l'idée, c'est de voir un peu ce qui s'est passé entre 2019 et aujourd'hui, un peu step by step, aussi bien sur la partie pro que perso. Et du coup, on va discuter de tout ça ensemble, si t'es chaud.
Vas-y, avec plaisir.
Du coup, ma première question, donc toi, t'es sur YouTube depuis quasi 10 ans.
Ouais.
Donc, t'es un petit vieux du YouTube game et de la création de contenu au global. Qu'est-ce qui a changé, selon toi, entre la vente de formation, la création de contenu de 2019 à aujourd'hui, tu vois ? Est-ce que tu t'as perçu un changement entre l'avant et l'après, sachant qu'il s'est quand même passé un truc de fou en 2020?
Ouais, il y a eu une prise de conscience, je pense, en 2020, que ce métier était solide. Quand tout le monde se retrouvait en télétravail ou menacé, beaucoup de formateurs ont explosé à ce moment-là. Enfin, moi, je sais que mon business a fait x2 au moment du premier confinement, parce que tout le monde était chez lui, tout le monde était sur Internet. Et j'ai reçu pas mal de messages de gens qui commençaient à s'intéresser à ce que je faisais sérieusement, à me dire « Ah ouais, mais comment tu fais? Comment ça marche? Est-ce que tu peux m'aider ?» etc. Et là, j'ai compris que le métier était vu, perçu différemment, qu'il y avait une nouvelle crédibilité qui n'était pas là avant. Avant, on avait l'impression que c'était pas possible. Après 2020, on savait que c'était possible. Mais il s'est passé un autre phénomène, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont engouffrés dans la brèche. Il y a eu aussi beaucoup de créateurs un petit peu borderline ou un petit peu abusifs. Et donc, cette nouvelle crédibilité de gens qui se sont dit « Ok, c'est possible », elle a été assez rapidement remplacée par une méfiance de gens qui se sont dit « Encore un formateur en ligne ». Et donc, ce répit, en fait, n'a pas duré longtemps. Et je pense que pour les formateurs qui étaient déjà là avant, ça a aussi été l'occasion de revoir leur façon de travailler et de se dire « De quelle catégorie est-ce que je veux faire partie ?»
Oui, parce que d'un côté, effectivement, comme tu le dis, il y a eu une explosion du business. Mais du coup, une explosion aussi de ces formateurs.
Ouais.
Comment tu l'as perçu, toi, justement, cette arrivée de plein de gens qui ont vendu des formations en ligne, tu vois ?
Bah d'abord, j'étais content parce que moi, mon métier, c'est de former les formateurs. Donc évidemment, c'est intéressant pour moi. Ça fait plein de nouvelles personnes à former. Au début, ça m'a un petit peu fait peur aussi parce que je me suis dit, OK, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont donner une bonne image du métier ? Est-ce qu'ils vont continuer à faire ce que moi j'ai commencé à faire, c'est-à-dire propager, diffuser ces méthodes? Et finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le métier s'est installé. Le métier est devenu un vrai métier, est devenu un métier considéré comme les autres. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et ce qui est intéressant, c'est que ça commence même à être régulé. Tu vois, tout le métier des créateurs de contenu, des influenceurs, il y a des lois qui sont passées récemment pour justement réguler ce métier. Et c'est un peu aussi une façon de légitimer ce métier et de dire « Ok, ce métier maintenant, c'est un métier comme les autres ». Et c'est un métier qui est tout à fait aussi abordable pour quelqu'un qui se lance. C'est plus un rêve, c'est plus quelque chose d'étrange ou d'inatteignable. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et c'est aussi quelque chose qui demande des vraies compétences. On ne peut plus vendre ça comme on peut plus vendre ça en disant, on peut plus vendre du rêve en fait autour de ce métier, je pense. Maintenant, les gens ont compris que c'était un métier comme un autre, qui avait ses avantages, ses inconvénients. Tout n'était pas tout rose et il faut travailler, il faut développer ses compétences.
Comment ton business a évolué depuis 2019? Je sais que tu as atteint un milestone qui était important pour toi.
Ouais.
Est-ce que tu peux me parler de ce passage?
En 2020, ça a explosé avec le Covid. En 2021, ça a baissé parce qu'il y a eu le choc post-Covid. Tu vois, forcément, quand ça explose, après, ça y a une correction. Et du coup, ça a été une sorte de déclic pour moi parce que c'est la première année où mon chiffre d'affaires baissait. Et donc, en 2022, je me suis dit, cette année, je vais me fixer un objectif. Et mon objectif, ça a été de faire 1 million d'euros en un an de chiffre d'affaires. J'ai travaillé dur toute l'année pour essayer de l'atteindre. Et à la fin de l'année, j'avais tout juste atteint. J'étais à peut-être 1 million 20 000, quoi, quelque chose comme ça. Et ça a été pour moi une sorte de frayeur en fait, que je me suis fait parce que je me suis dit, mince, si je veux maintenir maintenant ce chiffre d'affaires, il va falloir que je fasse rentrer 80 000 euros tous les mois, 83 000 euros en moyenne tous les mois, ce qui est forcément super exigeant. Tu ne peux pas te contenter de faire un petit lancement par-ci, par-là, faire un peu de contenu et puis voir ce que ça donne. Ça demande une rigueur. Et donc, ça a été pour moi aussi le déclencheur d'un nouvel objectif qui est de construire une équipe et de m'installer pour le long terme.
Et donc, justement, en parlant d'équipe, c'est quoi la team derrière Antoine BM?
À la base, moi, j'ai commencé tout seul, comme tout le monde, hein, comme toi, je pense aussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3-4 ans, même pas peut-être 2-3 ans, je commençais à être un peu sous l'eau au niveau support client. Et donc, j'ai cherché quelqu'un, j'ai posté un post sur mon groupe Facebook. Et là, il y a un gars qui s'est démarqué de tout le monde, qui s'appelle Félix. Et ce gars-là, je l'ai eu au téléphone et en 3 secondes, je savais que c'était lui, que ça allait être la bonne personne. Et en fait, ce gars-là qui a commencé en faisant du support client dans ma boîte, aujourd'hui, il gère ma boîte. Donc, il a pris de plus en plus de responsabilités avec le temps. À la base, il était joueur d'orgue dans une église suisse, organiste. Et maintenant, il gère des business d'entrepreneurs. Il a monté une agence, etc. Et grâce à Félix, ça a ouvert plein de possibilités puisque Félix est ce qui me manque, si tu veux, à moi, qui suis plutôt le créatif de la boîte, c'est que Félix, c'est le gestionnaire. C'est quelqu'un qui est super doué avec les chiffres, qui est super doué avec l'administratif, qui s'intéresse au management, qui a envie de construire quelque chose. Et donc, Félix est la personne qui m'aide, si tu veux, à construire mon équipe.
Donc, Félix, effectivement, tu l'as interviewé. Alors, juste pour la précision devant les caméras, tu as enlevé ta veste, on a fait un petit cut. Tout s'est bien passé, voilà. Juste histoire de contextualiser. Pour revenir à Félix, effectivement, tu l'as eu en interview du coup en 2022, parce que justement, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'ombre. Et effectivement, j'imagine que aujourd'hui, c'est ton bras droit, du coup, c'est ça?
Ouais, exactement. Et en fait, tu vois, on a tendance à penser sur le web, c'est partout pareil, tu vois. T'as les entrepreneurs sur le devant de la scène et ceux qui sont derrière. Et en fait, ceux qui sont derrière, on vient jamais rien leur demander. On les interviewe pas, on les met pas en avant, on n'en parle pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas cette intention de se montrer, ils n'ont pas d'intérêt particulier à se montrer. Mais ces gens-là sont tellement importants parce que c'est souvent derrière, à mon avis, derrière chaque créateur un peu connu, il y a très souvent, tu vois, des gens qui sont là pour les aider ou des agences ou des managers ou tu vois. Je pense qu'on en a absolument besoin. Et donc, sans Félix, aujourd'hui, j'aurais pas pu commencer à construire mon équipe, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui, j'aurais pas autant de temps pour pouvoir créer, pour pouvoir réfléchir à mon activité. Et donc, on est vraiment un duo, en fait, dans cette boîte, même s'il y a que moi à la caméra.
Ouais, bien sûr, avec deux profils ultra, ultra complémentaires. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as franchi le cap du million d'euros de chiffre d'affaires? Dans quel état d'esprit tu étais? Et est-ce que tu t'es dit... Ok, et je fais quoi maintenant, tu vois? Ou est-ce que tu avais toujours une trajectoire?
Du million en tout ou du million en un an?
En un an.
Ok, donc fin 2022. En fait, c'était surtout un soulagement parce que je m'étais fixé cet objectif publiquement. Et donc, toute l'année, j'ai eu cette espèce de nuage au-dessus de la tête qui me disait je sais qu'on est en août, je sais que c'est pas forcément le meilleur mois et tout, je sais que tu as envie de prendre des vacances, mais tu vas bosser deux fois plus parce qu'il faut maintenir le cap. Et donc, ça a été une année qui a été un peu pesante à cause de ça. Et donc, le fait de faire le million, je me suis pas dit « cool, j'ai plein d'argent ». Je me suis dit « ok, je l'ai fait, c'est bon, la case est cochée, je peux passer à autre chose ». Et donc, pour 2023, je me suis pas dit « je veux faire 2 millions », surtout pas. Parce que c'était mon défi de 2022 pour attraper 2021. Ok, c'était fait, j'étais soulagé. Mais c'est aussi, il faut voir aussi les inconvénients de ça, c'est que ça te bride aussi dans autre chose. C'est-à-dire quand tu te focalises sur un seul objectif, tu mets un peu de côté aussi les autres objectifs et donc tu perds aussi quelque chose. Et donc je me suis dit pour 2023, je vais essayer justement de mettre en place l'équipe, quitte à faire un petit peu moins ou quitte à mettre un petit peu de côté le chiffre d'affaires, le temps de former les gens, etc.
Est-ce que tu as voyagé sur cette période et c'est quoi un peu les voyages qui t'ont marqué sur, entre 2020 et aujourd'hui, tu vois ?
Ouais, j'ai toujours pas mal voyagé. En fait, je le vois presque comme un investissement, le voyage, parce que quand tu crées du contenu, tu as besoin d'avoir des idées, tu as besoin d'être inspiré. Et quand tu restes toujours au même endroit, c'est très difficile d'avoir des idées. En fait, les idées, tu les as pas au moment où tu travailles. Tu les as quand tu travailles pas. Et donc, tu peux pas travailler toute la journée et être créatif. Je pense que c'est fondamentalement incompatible. Et ça nécessite de protéger son temps et de s'autoriser des moments d'évasion. Et donc, ce que j'ai fait cette année, ouais, c'est que j'ai pas mal voyagé. J'ai passé un mois, par exemple, à New York. Là, je reviens d'un voyage en Asie, j'ai été en Corée, au Japon, à Taïwan, à Singapour, en Thaïlande. Et en fait, ce que j'aime, si tu veux, dans le voyage, c'est même pas forcément la destination. Je voyage pas forcément comme un touriste qui va dans une destination, je sais pas, pendant une semaine et qui visite un maximum de choses. C'est juste le fait de me déplacer, en fait. Le fait de chaque jour être dans un environnement différent, changer de chambre d'hôtel, prendre les transports. Et c'est dans ces moments-là, justement, que c'est une sorte de bain de cerveau, c'est stimulant. Et c'est dans ces moments-là que j'ai mes meilleures idées. Et souvent, c'est en voyage que j'ai mes grands déclics, les choses que je vais mettre en place ensuite dans mon activité et qui vont tout changer. C'est très rarement dans des moments de routine. Tu as besoin de routine pour mettre en place ensuite ce que tu as eu pendant ton déclic. Tu as besoin de ces routines pour construire. Mais tu as aussi besoin d'en sortir pour imaginer et pour trouver de nouvelles idées. Donc c'est vraiment l'alternance entre les deux, entre des moments de routine à Paris et des moments de voyage intense où je bouge tous les jours, qui me fait mon équilibre, si tu veux, en tant que créateur de contenu.
Ça, c'est super important, tu vois, de changer de cadre, justement, comme tu le dis, pour c'est un vrai booster de créativité, quoi.
Ouais, carrément, ouais.
C'est quoi ta relation avec ton entourage ? Comment elle a évolué au fil du temps ? Est-ce qu'elle est différente qu'il y a quelques années, tu vois ?
Ouais, c'est intéressant comme question. C'est quelque chose que je prenais pas vraiment au sérieux quand je me suis lancé dans mon activité. En fait, tu vois, je me suis lancé à 17 ans. Donc, quand t'as 17 ans, moi, mon rêve, c'était de partir de chez moi, tu vois. C'était de prendre mon appart, de partir en voyage, tout sauf rester dans cette vie un peu d'adolescent, d'enfant. Je voulais pas ça. Je voulais être libre. Et donc, mon entourage voyait ça comme un obstacle, tu vois. C'était, voilà, les gens qui... En fait, c'était mon rapport à l'enfance. C'était, ils te ramenaient toujours à ce que t'étais, mais pas à ce que tu veux devenir. Et en plus, à cette époque-là, tu vois, on était en 2012, tu t'annonces à tes parents que ton objectif, c'est de vivre de ton blog. Ça fait pas sérieux. Eux, ils disent, ouais, bon, bah, fais des études, tu vois. C'est pas... Ils ont du mal à y croire, et c'est normal. Surtout en 2012, où personne fait ça. Donc, c'était compliqué, et c'était vraiment une époque où j'avais envie de m'en détacher. C'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à gagner ma vie sur Internet. Bah, c'est tout simplement quand j'ai arrêté mes études en 2015 et que je suis parti à l'autre bout du monde dans un long voyage de 5 mois. Et à ce moment-là, ça a commencé à marcher pour moi parce que justement, je m'étais déconnecté de cet environnement-là à 100%. J'ai quasiment parlé à personne pendant 5 mois. J'ai quand même fait des rencontres, mais la plupart du temps, je travaillais. Et c'est ce qui m'a permis aussi de m'affranchir. Mais ensuite, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai gardé un petit peu ce truc-là, de voir un peu mon environnement comme un obstacle et peut-être de le négliger un petit peu. Et je me suis rendu compte que c'était une erreur parce que t'es... Tu vois, quand tu vieillis, ton entourage, les gens qui t'aiment, tu vois, tes amis, c'est plus important que ton business. T'as pas envie de finir riche et seul, tu vois. Et donc j'ai recommencé à travailler là-dessus, à comprendre aussi une chose, c'est que si tu fais toujours passer ton business en priorité, et c'est le cas quand même je pense, la plupart des entrepreneurs, c'est que notre business est toujours la priorité, c'est ce auquel on pense le plus, bah c'est aussi ce qui va prendre le plus de place dans notre vie au détriment du reste. Et donc j'ai eu cette sorte de prise de conscience, de me dire, et ça s'est fait aussi au moment où je me suis marié, où je me suis rendu compte que mon mari avait une relation avec sa famille qui était beaucoup plus forte que la mienne, et où je me suis rendu compte que j'avais pas envie, si tu veux, de recréer... tu vois, si moi je fonde une famille un jour, j'ai pas envie d'avoir une famille distante, d'avoir une famille où chacun est obsédé par son truc et s'intéresse pas aux autres. J'ai envie de créer un environnement sain et un environnement où il y a de l'amour, où on s'attache et on prend du temps les uns pour les autres. Et donc j'ai compris qu'il fallait mettre autant de soin dans ses relations qu'on peut en mettre dans son business, dans son activité, et que c'est aussi du travail. Pas du travail dans le sens où on va souffrir, mais du travail dans le sens où on va mettre du temps et du soin. Donc c'est quelque chose que j'essaie de faire davantage aujourd'hui. Et c'est un de mes points de focus aussi pour cette année, c'est justement de pas forcément rencontrer le maximum de gens. C'est ce que j'ai fait l'année dernière. J'étais à beaucoup de soirées d'entrepreneurs, d'influenceurs, etc. J'ai rencontré plein de gens, c'était cool. Mais je me suis rendu compte que c'était pas ça dont j'avais besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était de passer plus de temps avec les gens que j'aime bien, tu vois, avec les gens avec qui j'ai une bonne connexion. Et ça implique aussi d'avoir d'accepter l'idée. Et ça, c'est aussi pas évident pour nous en tant qu'entrepreneurs, c'est d'accepter l'idée de relations non transactionnelles. C'est-à-dire, on cherche rien en face. On cherche pas une personne qui va nous ouvrir des opportunités. On cherche même pas forcément une personne qui est particulièrement intéressante, particulièrement drôle. Non, juste des gens avec qui on se sent bien et avec qui, justement, on s'aime sans qu'il y ait besoin d'avoir le moindre rapport transactionnel. Donc c'est ça, c'est un de mes focus aussi pour cette année. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on peut facilement se retrouver seul. D'abord parce que par design, souvent on travaille seul chez nous devant un ordinateur. Donc on n'a pas cette vie sociale qui nous est apportée sur un plateau comme peut l'avoir un salarié avec ses collègues. Et donc c'est un effort qu'on doit faire. Et en plus, on est un peu différent du reste des autres. On est un peu obsessionnel sur certains trucs. Parfois, on a l'impression que les conversations des gens sont un peu superficielles par rapport à ce qui nous intéresse nous. Et donc on peut s'isoler. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont tendance à s'isoler. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel, une fois que tu as ton business qui tourne, il faut se remettre là-dessus, tu vois. Il ne faut pas oublier que sur le long terme, les relations, c'est ce qui est le plus important, tu vois. C'est plus important que tout le reste.
Donc ce déclic, tu l'as eu assez récemment, finalement.
Ouais.
Est-ce que tu ne penses pas aussi que ça fait partie du process, entre guillemets, de l'entrepreneur, où la première étape, c'est le fait de vouloir s'émanciper, tu vois, d'être seul, de réussir seul. Et en fait, tu te rends compte au fil du temps que, bah, effectivement, comme tu dis, ça ne sert à rien de mourir riche et seul, tu vois. Et je pense effectivement que ça fait partie du chemin et de l'aventure des entrepreneurs.
Carrément, ouais. On va souvent dans un excès pour ensuite aller dans un autre, tu vois. Et souvent, on a besoin d'aller dans un excès, tu vois. On a besoin d'y aller pour se rendre compte de ce qu'on veut pas et ensuite y revenir. C'est comme le voyage au début de mon aventure entrepreneuriale. J'avais qu'une envie, c'était de quitter Paris et de jamais revenir.
C'est vrai.
Parce que j'avais cette vision, en fait, d'étudiant salarié. J'étais étudiant en alternance, tu vois. J'avais cette vision de Paris, métro, boulot, dodo, etc. Je voyais tout ce qui m'allait pas. Jamais j'aurais cru que finalement j'allais voyager et puis j'allais revenir à Paris, m'installer à Paris et que j'allais vouloir vivre nulle part ailleurs. Et en fait, c'est parce que j'ai beaucoup voyagé, justement, j'ai vu beaucoup de modes de vie différents, j'ai rencontré pas mal d'expatriés, que j'ai vu aussi ce que c'était que l'excès inverse et j'ai vu tout ce qui allait pas aussi avec l'excès inverse au-delà de la carte postale et je me suis rendu compte que ça m'allait pas.
T'as des regrets sur cette période où tu te dis, si je ne l'avais pas fait, j'en serais pas là aujourd'hui, tu vois.
Aucun regret. Je pense qu'on est peu importe ce qui nous est arrivé, que ce soit positif ou négatif, on en est la somme. Et la personne qu'on est aujourd'hui ne serait pas tout à fait elle-même si elle n'avait pas vécu les choses. Et donc, non, j'ai aucun regret.
On va changer de mood et on va parler un peu plus de plaisir. Sur quoi aujourd'hui est-ce que tu prends le plus de plaisir dans ce que tu fais au quotidien ?
Écrire, me promener, passer du temps avec mes proches. Les choses les plus simples. Écrire, j'ai remarqué un truc, c'est vraiment une révélation que j'ai eue très récemment, c'est que j'en ai besoin pour mon équilibre et j'en ai besoin pour penser. Et je trouve que c'est très difficile de penser correctement si tu n'écris pas. Parce que quand tu penses, t'as pas de traces et donc t'es sans arrêt en train d'oublier ce que t'as dit avant, de repenser en boucle les mêmes choses, de contredire ce que t'as pensé avant. Et en fait, tout ça, tu peux pas le faire quand t'écris. Parce que quand t'écris, tu vois quand il y a une redondance, tu vois quand il y a une contradiction, et donc t'es obligé d'avoir quelque chose de cohérent. Et donc le fait de juste d'avoir cette habitude d'écrire tous les matins, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans quand je faisais mes emails quotidiens, j'ai jamais été aussi confiant que pendant ces 2 années sur ma pensée, ma philosophie, mes idées, parce que justement, je mettais tout sur clavier tous les matins. Et donc ça me permettait de lui donner vie, tu vois, de donner un sens à tout ça. Et cette année, j'ai arrêté d'écrire en début d'année parce que je me suis dit, ok, maintenant je me focalise sur YouTube et je me voyais pas scripter mes vidéos, c'était trop de boulot, donc je me suis dit, ok, je vais faire des vidéos un peu en semi-impro. Et en fait, je me suis très vite retrouvé pris dans cet engrenage de tu penses, tu contredis, tu repenses, tu remets en cause tout ce que tu fais toutes les 5 minutes, c'est un truc. J'essaie de pas le montrer, tu vois, dans les contenus parce que ton audience, elle vient pour voir le show, elle a besoin d'avoir quelque chose de stable. Mais moi, dans ma tête, j'étais complètement. C'était l'agitation totale pendant une partie de ce début d'année. Et en fait, j'ai juste repris cette habitude simple de me dire j'écris tous les jours. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'allais commencer à scripter mes vidéos YouTube, justement. Et c'est pas grave, c'est pas plus de travail, c'est juste plus de temps. Donc au lieu de faire 2 ou 3 vidéos par semaine, je fais plus qu'une seule vidéo par semaine, mais je prends le temps de l'écrire. Chaque matin, j'écris un petit peu. Et c'est fou comment cette habitude, aussi simple soit-elle, peut te cadrer, te calmer, te faire te sentir mieux et aussi te faire faire du meilleur travail parce que en couchant ta philosophie sur le papier, tu lui donnes vie et tu prends confiance aussi en elle.
C'est en même temps la chose la plus simple et la plus difficile, mais aussi la plus accessible, tu vois. Et le fait d'écrire, ça te permet aussi de documenter tes pensées, l'évolution de ta réflexion, etc. Donc c'est effectivement, je pense que c'est hyper important.
Et t'as raison, on n'est pas obligé d'écrire pour quelque chose. On peut juste écrire pour écrire. On peut tenir un journal tous les soirs ou tous les matins. Enfin, beaucoup de grands hommes, tu vois, c'est connu, tenir un journal. Je pense que c'est pas pour rien. Même si le journal n'était jamais publié, c'était pour eux. C'était pour avoir le sentiment d'avancer. C'est très difficile de voir ta progression si tu traces pas. Et en fait, on fait trop confiance à notre mémoire qui retient que des éléments marquants, mais qui retient pas tous les problèmes qu'on a déjà résolus dans nos têtes il y a peut-être 3 mois ou 6 mois ou 2 ans. On a oublié qu'on les a résolus et on est à nouveau en train d'essayer de les résoudre. Et en fait, on perd un temps, une énergie mentale folle à essayer de refaire et refaire et refaire encore la même chose simplement parce qu'on l'a pas, on n'a pas pris le temps de le documenter. Et je fais ça aussi à travers des vlogs. Tu vois, je me suis remis à faire ce format. C'est des longs vlogs de 40 minutes, tu vois, sur une semaine. Et c'est génial, en fait. J'adore faire ça parce que j'adore les revoir. Je revois, c'est les seules vidéos de moi que je re-regarde plusieurs années plus tard parce que ça me permet de me dire, OK, à cette époque, j'étais comme ça, je pensais comme ça, je vivais comme ça. Et c'est fou à quel point on oublie. Je regardais un vlog d'il y a seulement un an, une semaine de randonnée où je partageais des idées et tout. J'avais oublié les 3/4 de ce que je disais dans ce vlog et c'était des bons souvenirs et ça m'a relancé dans des réflexions que j'avais à l'époque. Il faut garder une trace, ne serait-ce que pour soi. Alors c'est génial quand on a une audience qui s'intéresse à ça et qu'on peut la partager avec elle, mais même si on n'a pas d'audience, garder une trace, ne serait-ce que pour soi, pour avoir ce sentiment de progresser, je pense.
Ouais, je pense que le vlog, c'est vraiment un format parfait pour documenter ce qu'on fait, outre la partie écriture. Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert il y a quelques temps.
On en avait parlé,
effectivement, sur le premier épisode.
Ouais.
Et je pense que c'est un des formats que je préfère sur YouTube, tu vois.
Ouais.
Clairement, on a grandi avec Casey Neistat.
Ouais.
Enfin, tu vois, les vlogs doux de Lena Situation. Enfin, il y a plein de créateurs qui sont très, très bons dans le format vlog. Et je trouve que c'est un des formats les plus agréables à regarder, tu vois.
Ouais, je suis assez d'accord. J'ai été très inspiré aussi par Casey.
Le boss.
Quoi?
Le boss.
Le boss. Bah,
tu l'avais croisé à New York, non? C'est ça?
Je l'ai croisé à New York. Je lui ai pas dit bonjour. J'ai pas osé.
Ouais, normal.
Mais je l'ai vu. Je l'ai vu devant son studio et ouais, ça m'a fait quelque chose. Okay. Je pense que j'aurais probablement pas fait ça sans. En tout cas, pas de la même manière s'il était pas passé par là. Et je pense que de nombreux créateurs et de nombreux YouTubeurs ont été inspirés par lui. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui valide la puissance du vlog, c'est que c'est probablement un des créateurs de contenu qui a eu le plus d'influence. Je sais pas si tu te souviens à l'époque, mais tout le monde copiait Casey Neistat, moi compris.
On
copiait ses techniques, sa police, ses musiques, tout. Et c'est là que tu vois la force, la puissance d'influence d'un contenu coulisse, d'un contenu qui montre un petit peu ta vie, qui partage un petit peu ta philosophie. Pour moi, le vlog, c'est une sorte de soft power, tu vois. Ça va être très difficile de mesurer à court terme combien ça va rapporter à ta boîte, etc. Ça fait pas beaucoup de vues non plus parce que forcément les gens qui te connaissent pas, ils s'en foutent de voir ton vlog, donc c'est que pour les vrais. Mais je pense que c'est une sorte de soft power. Il faut faire confiance à ça et se dire que quand on fait ça, t'as des gens qui en tirent une valeur énorme. Même si tu les vois pas, même s'ils te le disent pas forcément, t'as des gens qui en tirent une valeur énorme et ça, tu le vois à l'influence parfois que tu peux avoir quand tu fais ce genre de contenu et qu'ensuite tu vois des gens dans ton audience qui font la même chose ou qui s'en inspirent. C'est comme ça que tu peux mesurer la capacité d'influence. Et Casey Neistat, évidemment, c'était pas seulement vlog, hein. Il avait aussi il a appliqué des techniques de cinéma sur YouTube. C'était un gars hyper créatif.
On va du coup parler de ton audience dans la continuité de ce que t'as dit. C'est quoi ta relation et ton rapport avec ton audience et est-ce que ça a évolué au fil du temps?
Ouais, j'ai toujours eu beaucoup de mal, moi, à qualifier ça parce que c'est très immatériel. Ton audience, c'est des chiffres. C'est un nombre de vues, c'est un nombre de ventes, c'est des commentaires de temps en temps. Mais les commentaires, bon, la plupart des gens commentent pas, tu vois. Et puis, il y a aussi des commentaires pas très agréables, donc t'as pas envie de réduire ton audience à ça. Et donc, c'est très difficile à qualifier. Moi, j'ai toujours été mal à l'aise avec ça. D'ailleurs, très souvent, j'ai désactivé les commentaires. Quand j'avais un blog, je désactivais les commentaires. Quand j'avais un canal Telegram, je désactivais les commentaires. Même sur YouTube, pendant une époque, j'ai désactivé les commentaires. Parce que c'est pas parce que j'aime pas ma communauté, c'est parce que je sais pas gérer ça, tu vois. Je suis pas qualifié pour gérer le fait qu'il y ait une foule d'inconnus partout en France et dans le monde qui suivent ce que je fais, qui ont des opinions sur ce que je fais, qui voilà, c'est très difficile pour moi de créer en sachant qu'il y a ce feedback direct, tu vois, derrière tes créations. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est difficile à gérer. Maintenant, moi j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai une audience qui est pas énorme, mais qui est, je trouve, qualitative. Et la meilleure chose que j'ai pu faire pour mieux me représenter cette audience, c'est essayer de la rencontrer un maximum. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est que quasiment à chaque fois que je voyage dans un pays, j'organise une rencontre avec des abonnés qui sont dans ce pays-là. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est à l'étranger, il n'y a pas trop de monde, tu vois, on va pas être 200. Généralement, on est 5-6, on se fait un dîner, on prend un apéro. J'ai rencontré des gens, enfin, il y a vraiment des gens complètement différents. Il y a tous les âges, il y a des hommes, des femmes, il y a des gens qui ont des projets complètement différents, il y a des styles d'entrepreneurs aussi très différents, donc c'est intéressant. Je peux pas, tu vois, je peux pas faire un... J'ai pas d'avatar, par exemple. Tout le monde dit qu'il faut créer un avatar. J'ai pas d'avatar, jamais su comment créer un avatar. J'ai des gens qui sont dans la spiritualité, des gens qui sont dans la NFT, des gens qui sont dans il faut que je sois aligné et que je crée... Non, il y a vraiment de tout. C'est très, très, très difficile. Et donc, ce que je fais, c'est que je rencontre des gens par petits groupes. Parce qu'un petit groupe, je peux l'appréhender, tu vois. Une foule de, je sais pas, 5 000 personnes qui ont une vidéo, pour moi, c'est impossible de la visualiser. Mais un petit groupe de 5 personnes qui viennent rencontrer abonnés, c'est possible. Et donc, en discutant avec ces gens-là, déjà, ça me fait toujours plaisir parce que je me rends compte que c'est des gens qui sont intelligents, qui ont des choses à dire, qui sont optimistes, qui font des choses, tu vois, qui se bougent. Donc, ça me met toujours un gros coup de boost, tu vois, en me disant, OK, je sais pour qui je travaille. Et ça me motive, évidemment. Et c'est aussi un moyen de mieux connaître cette audience-là, parce que cette audience a aussi des clients. Moi, faut pas oublier que, tu vois, je suis pas vraiment un YouTuber de base. Je suis un formateur, je suis avant tout un formateur, et mon métier, si tu veux, avant mon audience, il y a mes clients. Mes clients qui font partie de mon audience, si tu veux, mais c'est vraiment le noyau dur. Et si ce noyau dur de peut-être 5% de mon audience disparaît, j'ai plus de métier. Donc c'est eux qui comptent pour moi. Et donc j'essaye le plus possible de créer du contenu pour eux, en sachant que ça va pas forcément séduire la masse ou le grand public, mais en me rappelant que c'est pour eux que je travaille, que c'est eux qui me font vivre et que c'est eux le plus important. Et c'est peut-être aussi la différence avec un créateur de contenu traditionnel, tu vois, qui vit de publicité ou de sponsor, c'est que lui, ce qu'il va chercher, c'est à toucher un maximum de gens et donc à faire du grand public. Moi, ce que je vais chercher, c'est plutôt à toucher au cœur ce petit noyau dur de clients et de fans qui me permettent de gagner ma vie et donc auquel je suis au service.
Pour revenir justement à ton business, c'est quoi la formation qui a le plus marché ces 2-3 dernières années ? Est-ce qu'il y a une formation qui a vraiment cartonné plus que les autres ?
Alors évidemment, après, l'entreprise progresse, tu vois, d'année en année, donc il y a des formations qui ont très bien marché il y a quelques années, mais qui ont été dépassées depuis. Je dirais que la dernière formation qui a le mieux marché, c'est ma formation sur Instagram. En fait, pendant quelques mois, j'ai posté tous les jours des reels sur Instagram. Ça a bien marché. J'ai lancé une formation sur le sujet qui a cartonné. Je pense que c'est parce que Instagram, c'est accessible à tous. Il y a beaucoup plus de gens qui se voient parce qu'ils le font déjà, en fait, créer du contenu sur Instagram plutôt que sur YouTube, par exemple, qui nécessite plein de compétences, de savoir monter des vidéos, d'avoir du matériel, etc. Et donc, c'est une formation qui a pu toucher un public un peu plus large. Et la deuxième raison, je pense, pour laquelle elle a bien marché, c'est que je l'ai fait avant. Et ça, c'est vraiment un des secrets, si tu veux vendre des formations, c'est de créer des trucs publiquement, de documenter ce que tu fais, d'avoir des résultats avec. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait passer mon compte Instagram de quoi 10 000 abonnés qui me suivaient depuis des années, tu vois, un peu mort, à 80 000 abonnés en quelques mois, en faisant des Reels. Et donc, tout le monde a vu que ça avait marché. Et donc, tout le monde attendait de savoir comment j'avais fait concrètement d'avoir la méthode. Derrière, j'ai lancé la méthode et ça a marché. Donc je pense que c'est vraiment les deux facteurs. La plupart des gens peuvent le faire et ils m'ont vu le faire avant, donc ils sont gonflés à bloc.
Ce que j'aime beaucoup avec ton état d'esprit, c'est que justement à chaque fois tu vas tester un maximum de choses. Donc par exemple sur Instagram, c'était un contenu par jour, tu as testé l'algo et tu en as fait une formation. Ensuite à un moment donné, tu es arrivé sur LinkedIn aussi, tu as testé pas mal LinkedIn. Enfin à chaque fois tu testes, tu dégommes un peu le réseau. Et après,
pas toujours.
Et après, t'en fais une formation.
Ouais.
C'est un peu ton process.
Ouais, carrément. Mais tu vois, par exemple, sur LinkedIn, j'ai pas dégommé le réseau. Tu vois, j'ai commencé à poster un peu.
Aussi, hein.
Ouais, j'ai commencé à poser un peu, je me suis dit, cool, une plateforme qui met en avant le texte. Enfin, tu vois. Moi, ça manque tellement, tu vois. Juste une plateforme où tu écris des textes et où ils peuvent marcher. Donc ça, c'était génial. Après, l'ambiance sur LinkedIn, pas vraiment mon ambiance à moi. Je suis pas fan de la plateforme. Même le design de la plateforme, ça ressemble à Facebook en 2010. Enfin, je comprends pas pourquoi ils peuvent pas embaucher un bon designer. Bref, je me suis pas senti particulièrement bien dessus. Et donc, j'ai posté pendant quelques semaines. Et puis, j'ai arrêté. Et puis, je me suis remis sur YouTube. Ma plateforme de cœur, ça reste quand même YouTube. Voilà. Mais sinon, ouais, c'est, en fait, je fonctionne à l'enthousiasme. C'est une bonne manière aussi de créer des cycles. En fait, tu sais, moi, je fonctionne avec des petits produits. Donc, je lance une nouvelle formation par mois que je lance à peu près à 200€. Tu vois, donc, c'est quand même moins cher que la moyenne sur le marché. Et en fait, ce que m'apporte ça, c'est que ça peut aller très vite. Et donc, je découvre un nouveau truc. C'est enthousiasmant. Je teste un peu. Je fais mes armes dessus. Je vois si je peux avoir des résultats avec. Si j'ai des résultats, je le montre à mon audience. Si je vois que mon audience accroche, j'en fais des contenus. Si je vois que les contenus marchent, j'en fais une formation. Et si la formation marche, bah, ça va me permettre peut-être d'aller plus loin aussi là-dedans, de faire d'autres formations là-dessus, de creuser le sujet. Donc c'est ça qui est cool aussi, c'est que quand tu bosses comme ça, t'es pas enfermé dans une sorte de cours, un peu comme un prof qui a son programme de l'année et qui doit suivre son programme. Tu peux vraiment suivre ton instinct. Il y a un nouveau truc qui apparaît, c'est excitant. Par exemple, je sais pas, il y a quelques mois, là, c'était l'explosion des IA, des intelligences artificielles. Ok, t'es à fond dedans, tu crées du contenu autour de ça, les gens sont à fond dedans aussi, tu sors une formation là-dessus, la formation cartonne. Tu peux vraiment avoir un cycle qui suit tes aspirations et ton enthousiasme du moment. Et ça permet aussi de ne pas s'ennuyer dans un métier comme ça, parce que l'ennui quand t'es créateur de contenu, c'est quand même un truc qui peut... Ça fait partie des choses qui peuvent te faire échouer, quoi.
Ouais, je suis complètement aligné là-dessus. Pour conclure sur cette partie, c'est quoi un peu tes objectifs futurs sur les prochains mois, prochaines années, aussi bien sur la partie création de contenu que vente de formation, etc. Tu vois.
Alors, en ce moment, je suis un peu pris en étau entre deux choses. C'est le côté créativité, artisanat. C'est comme ça que j'ai commencé. Moi, ce que j'aime, c'est créer du contenu, vendre, écrire. Voilà. C'est ça que je fais, moi, de base. Et côté entrepreneurial, c'est qu'il y a quand même une entreprise à construire. L'entreprise est de plus en plus grosse. Ça nécessite quand même d'être présent, tu vois, même si j'ai Félix qui m'aide énormément. Là, les nouveaux, l'équipe qu'on est en train de construire, bah, il faut la former, tu vois. C'est moi qui la forme, parce que je la forme aussi sur l'aspect créatif. Et je suis un peu pris entre les deux, où j'essaye de protéger mon temps alloué à la création, tout en allouant aussi du temps au management, à la gestion de l'entreprise, à la croissance, etc. Et ça, c'est pas évident, parce que je me vois pas vraiment comme un entrepreneur, je me vois beaucoup plus comme un auteur ou un créatif. Et l'entreprise, c'est juste la structure qui me permet de transformer ça en quelque chose de plus grand, de toucher plus de monde, de gagner plus, etc. Donc, si tu veux, moi, mon objectif, c'est de construire un business pérenne, de construire quelque chose qui peut durer. Pour moi, être capable d'être prolifique sur le long terme, c'est vraiment... C'est rare. Déjà, tu vois beaucoup de créateurs qui sont très, très, très doués, mais qui se crament. Qui font un burn-out, finissent par détester ce qu'ils avaient fait au départ par passion, parce qu'ils n'ont pas créé un cadre sain autour de ça. Je pense que, tu vois, quand on débute en tant qu'entrepreneur, on a tendance à faire passer nos résultats en priorité, à se cramer en fait ces journées, tout en se disant « c'est provisoire ». Et c'est OK, quand tu débutes et que tu passes de 0 à 1, tu vas bosser plus, tu vas donner beaucoup d'énergie, tu vas faire quelque chose qui n'est pas soutenable sur le long terme. Le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs restent dans ce mode de fonctionnement après avoir passé ce cap-là. C'est-à-dire qu'ils se sont habitués à ce mode de fonctionnement et ils restent dans ce fonctionnement en fait, qui les crame petit à petit sans forcément qu'ils s'en rendent compte, jusqu'au jour où ils finissent par détester leur boulot. Ils supportent plus, ils sont même plus capables de le faire parfois. Ils sont plus capables de travailler parce qu'ils sont épuisés en fait, ils sont cramés et ils ont qu'une envie, c'est tout arrêter et de faire un truc qui a rien à voir ou d'aller élever des chefs dans le Larzac ou je sais pas quoi, tu vois. Et moi je veux pas ça, tu vois. Tu vois, on est jeune, il y a encore du temps devant nous. J'ai pas envie de me cramer maintenant. J'ai envie vraiment de protéger ce que je peux protéger. Et donc j'ai cette optique de me dire, j'ai la chance d'avoir trouvé un métier qui me convient, d'avoir trouvé même ma vocation, je dirais, tu vois, créer du contenu, je pense que c'était ancré en moi. Donc j'ai la chance d'avoir trouvé ma vocation. Maintenant, ma mission, et presque mon devoir, c'est de protéger ça, parce que c'est précieux et tout le monde l'a pas. Et le pire, c'est de l'avoir et de le gâcher, tu vois. Donc, c'est de protéger ça pour pouvoir le tenir le plus longtemps possible. Évidemment, construire un business qui peut progresser, parce que c'est toujours plus agréable d'avoir quelque chose qui progresse. Évidemment, de s'adapter avec les tendances, avec l'évolution du métier. J'ai pas envie de rester enfermé dans un modèle qui, petit à petit, se périme. Mais, en tout cas, garder une base saine le plus longtemps possible. Donc, c'est ça, mon objectif, c'est d'être encore là à 60 ans, d'être encore en train de créer du contenu, de pas m'être cramé, de pas être devenu une caricature de moi-même aussi, de pas avoir perdu mes compétences, d'être toujours capable de produire des idées, c'est ça, tu vois. Et si j'y arrive, pour moi, ça aurait été un succès. Finalement, peu importe si les revenus suivent ou pas. Tu vois, moi, je gagne largement assez pour bien vivre et j'ai pas des ambitions. J'ai pas des ambitions démesurées en termes d'argent. Moi, qu'est-ce que je veux ? Je veux un petit appart à Paris, sympa, avec une belle vue. Je veux une maison de campagne, à la limite. Je veux pouvoir voyager quand j'ai envie, sans compter. Mais ça s'arrête là, tu vois. Je veux pas un yacht, je veux pas racheter des grosses boîtes.
Une maison à Dubaï.
Je veux pas aller à Dubaï. Non, tu vois, ça, voilà. Donc, ouais, le plus important, c'est ça. Tenir sur la durée.
On va pouvoir passer à la partie bilan. Et ma première question, c'est de savoir quel a été le moment le plus difficile de ton aventure.
Il y a eu plusieurs choses. Je dirais que le moment le plus difficile, c'est quand je me suis construit en suivant les méthodes d'un mentor que j'avais, qui est quelqu'un qui m'a énormément inspiré et quelqu'un qui était complètement différent de ce que faisaient tous les autres dans mathématiques, qui pensait différemment, qui a inventé des méthodes. C'est vraiment le géotrouve-tout de mathématiques. C'est lui qui a inventé pas mal de choses que j'ai ensuite propagées aussi. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré, que je connaissais bien, on était amis, etc. Et un jour, on s'est fâché, tu vois, il s'est un peu retourné contre moi. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai arrêté complètement de le suivre et je me suis dit, bon, bah, maintenant, il faut que je fasse ma route tout seul. Pendant un an, j'en ai très peu parlé à mon audience, tu vois, mais pendant un an, ça a été super difficile pour moi, dans le sens où j'étais perdu, j'avais plus de guide, en fait. Avant, j'avais besoin de ce guide qui valide, pas directement, tu vois, mais qui valide quelque part ce que je faisais, en le faisant aussi dans son activité, en parlant dans ses contenus, etc. J'avais besoin d'être validé en fait par cette personne à distance, à travers ses contenus. Et pendant un an, j'ai complètement arrêté de suivre cette personne. Et donc, je me suis retrouvé perdu. J'avais plus de personne à suivre. C'était moi qui était en haut de ma pyramide, tu vois. J'avais plus de mentor. Et donc, et les gens continuent à compter sur moi parce que mon audience, elle comptait sur moi pour les guider, pour leur transmettre des méthodes. Et moi, j'avais plus personne au-dessus. Et donc, pendant un an, ça a été compliqué. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était la meilleure chose qui m'est arrivée parce que ça m'a forcé cette année-là à construire mon individualité et à me détacher en fait complètement des méthodes de cette personne-là et à tester des nouvelles choses que j'aurais probablement pas testées si j'étais encore sous l'influence de cette personne-là. Et ça a été extraordinaire parce que ça m'a permis d'aller probablement beaucoup plus loin que ce que j'aurais fait. Et en fait, je me suis rendu compte que cette personne, au bout d'un moment, elle commençait en fait à me brider parce que justement, j'attendais toujours sa validation et que ça m'empêchait d'explorer. Et donc, ça, un an un petit peu difficile, un an un petit peu perdu. Et en fait, au bout d'un an, j'avais retrouvé mes marques. J'expérimentais de nouvelles choses, j'avais des résultats avec. J'étais en train d'inventer un nouveau corpus de méthodes pour mes élèves. Et en fait, aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein vis-à-vis de ça. J'ai plus besoin, si tu veux, de cette validation et j'ai davantage confiance en mes capacités et en ma capacité à être un bon formateur, à être un bon créateur de contenu.
Ma deuxième question, c'est à l'inverse, quel a été le moment le plus marquant pour toi, positivement, de ces dernières années ?
Sans aucun doute, le moment où j'ai commencé à gagner ma vie sur Internet. C'est plus fort que tout, tu vois. On peut penser que c'est quand tu dépasses, je sais pas, les 20 000 euros par mois. Et que... Non, non, c'est vraiment quand tu passes de « je gagne pas ma vie sur Internet » à « je suis libre ». C'est tout bête, hein. C'est quoi ? C'est quand j'ai commencé à gagner mes premiers milliers d'euros. J'étais en voyage à ce moment-là, donc j'étais parti en voyage au Sri Lanka. Je lançais des petites formations à droite à gauche, je faisais des contenus. C'était juste, hein. J'avais des jours où je devais, où j'avais à peine de quoi payer l'hôtel. Et en fait, un jour, j'ai fait une grosse promo sur tout le catalogue. Je m'étais retrouvé à découvert et j'ai fait une grosse promo sur tout le catalogue. Et j'ai fait rentrer quelque chose comme 4000 euros, tu vois, en quelques jours. Ou en quelques heures, je sais plus, enfin peut-être en 24 heures. Et ça a été pour moi la révélation. Je me suis dit, c'est bon quoi, je vais plus jamais bosser pour un patron. À ce moment-là, j'en étais convaincu, tu vois. C'était, je l'ai fait. Je vais plus jamais bosser pour un patron. Et je me souviens de ces moments où j'étais tout seul, tu vois, dans un car qui m'emmenait d'une petite ville au fin fond de nulle part à une autre petite ville au fin fond de nulle part. Personne ne savait où j'étais. Enfin, il y avait ce sentiment, tu vois, j'avais 22 ans. Il y avait ce sentiment de liberté totale et de possibilité devant moi de me dire, mais ok, j'ai 22 ans et à partir de maintenant, je sais que je vais plus jamais bosser pour un patron, que tout est possible. Que je vais pouvoir gagner ma vie sur Internet, vivre de ma passion, me lever chaque matin en faisant ce que j'aime. Et là, tu te sens, ce sentiment, il est tellement grisant. C'est un truc que j'ai jamais ressenti à nouveau dans ma vie. Ce sentiment tellement grisant de te dire que ta vie est en train de changer pour toujours et que tu as échappé à quelque chose que tu détestais, c'est incroyable. Donc j'ai toujours... Et d'ailleurs, j'ai fait des vlogs pendant ce voyage et c'est les vidéos YouTube que je re-regarde le plus de moi, c'est ces vlogs, parce que ça me remet dans cet état d'esprit de l'époque, de liberté, de tout est possible. Et ça, c'est incroyable.
Ouais, je me rappelle de ces vidéos. La troisième et dernière question de cette partie, c'est si tu devais tout redémarrer de zéro, qu'est-ce que tu ferais et comment tu le ferais ?
Je ferais beaucoup plus simple que ce que j'ai fait et que ce que je fais aujourd'hui. Ce serait d'ailleurs l'opportunité de tester quelque chose de beaucoup plus simple. Quand je me suis lancé dans les shorts là, l'année dernière, pendant un an, j'ai fait des shorts sur Instagram et tout. Ça a bien marché, j'ai trouvé pas mal de clients comme ça. Et puis après, j'ai arrêté parce que ce format, il pète le cerveau quand même. Et c'est pas, tu vois, c'est pas sain, quoi. Et en fait, quand je me suis lancé dans ce format, la raison, c'est que j'ai découvert des entrepreneurs qui avaient 17 ans, 18 ans, donc tout jeunes, et qui faisaient 10, 15 000 euros par mois avec un compte Instagram et un Podia. Tu vois, Podia, c'est une plateforme sur laquelle tu peux vendre des formations. Très simple d'utilisation. Juste un compte Instagram, un Podia, ils n'avaient même pas de liste email pour certains. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, on peut aujourd'hui construire un truc de zéro et faire un vrai business, tu vois, faire entrer de l'argent, faire un truc qui marche, beaucoup plus simplement que la méthode traditionnelle que moi j'ai suivie quand je me suis lancé, qui consiste à créer un blog, à passer des semaines et des mois à écrire des articles pour qu'ils soient référencés, à créer une liste email, à faire une séquence automatique, à faire des tas de trucs, enfin... Et en fait, du coup, c'est ça qui m'a motivé aussi à faire ce format qui est très court. Et je pense que si je me relançais aujourd'hui, c'est ça que je ferais. Je créerais juste un compte Instagram. Je choisirais une thématique qui me plaît bien, mais pas trop large, tu vois, parce que je débute et j'ai pas forcément envie d'être en concurrence avec des mastodontes. J'écrirais mes shorts à la lettre en essayant de faire des accroches qui sont efficaces. Je les interpréterais devant ma caméra. J'en posterais un par jour comme ça, tous les jours, pour commencer à construire mon audience. Une fois que j'ai un petit noyau dur d'audience, tu vois, même pas quelques dizaines de personnes, mais qui suivent vraiment ce que je fais, qui like, qui commentent, etc. Je lancerai une prestation de coaching. Donc, je verrai quelle est la compétence que sur laquelle j'ai le plus de maîtrise. Et je proposerai à ces gens-là de les aider à atteindre des objectifs là-dedans, donc one-to-one. Et puis, une fois que j'ai suffisamment d'audience, quelques milliers de personnes qui me suivent, je passerai sur un modèle de coaching à l'échelle, donc de formation. Et je reprendrai en fait ce que je fais aujourd'hui. Tout simplement. Et je pense que ça, tu peux le faire aujourd'hui en 3 mois. Ouais. Quand je me suis lancé, c'était très compliqué parce que vraiment, il fallait construire un blog et le référencer sur Google, tu vois.
Parce que le côté viral était quasi inexistant.
Ça n'existait pas. Il y avait des forums, tu vois, tu pouvais grappiller de l'audience à droite à gauche. Mais tu pouvais pas devenir viral, ça n'existait pas. Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. Il n'y a pas forcément besoin de devenir viral, tu vois, mais juste faire des vidéos qui fonctionnent. Si t'arrives pas, si t'es pas bon en création de contenu, c'est pas grave, tu fais des pubs. J'ai des amis, ils arrivent pas à faire des vues, mais ils ont un business qui tourne bien parce qu'ils font rentrer des gens avec la publicité. Donc il y a toujours moyen. Et si tu veux, aujourd'hui, il y a plus besoin d'y passer 3 ans, quoi. Moi, j'ai mis 3 ans avant de commencer à gagner ma vie sur Internet. Aujourd'hui, tu peux le faire en 3 mois. Alors il y a beaucoup plus de concurrence, ça c'est vrai. Donc ça nécessite de se démarquer, ça nécessite de faire un vrai effort conscient de pas reproduire ce que font les autres. Je vois beaucoup de gens dans mon entourage qui se lancent sur Instagram avec l'espoir de percer très vite, mais qui refont un peu ce que font les autres en forcément moins bien parce qu'ils n'ont pas leur expérience. Ça marche pas. C'est normal que ça marche pas, et en même temps, c'est difficile parce qu'ils s'y attendent pas. Et en fait, aujourd'hui, c'est hyper compétitif. Donc, il faut prendre le contre-pied de ce que font les autres, il faut innover, il faut casser les trucs, il faut bien écrire. Ça s'improvise pas. C'est pour ça que, oui, tu peux le faire en 3 mois, mais il faut être bon de base, tu vois. Si de base tu pars de loin, que tu n'as jamais créé de contenu de ta vie, il va te falloir plus de temps. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas y arriver. Il va falloir plus de temps pour te former, pour expérimenter. Ce que je conseille, moi, aux débutants, c'est contenu quotidien. Tous les jours, ils écrivent, tous les jours, ils publient. Pendant au moins 2, 3 mois, voire 6 mois, le temps de faire leurs armes et de construire aussi une habitude avec leur audience.
Ouais, je suis complètement aligné avec cette récurrence quotidienne du départ qui va être hyper importante pour la suite de l'aventure. On passe à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. C'est une partie qui n'existait pas il y a 3 ans. Qui sont les 3 personnes qui t'inspirent le plus aujourd'hui? Que ce soit aussi bien des artistes, des créateurs, des entrepreneurs. Est-ce que tu as un top 3? Je sais que c'est des choses qui évoluent, tu vois.
Ouais. Les questions top 3, j'ai beaucoup de mal avec ça.
Pas top 3, dis-moi 3 ouais. de ton... Tu vois,
il y a des gens que je suis en ce moment, qui m'inspirent beaucoup en ce moment, puis ensuite je vais passer à quelqu'un d'autre, etc. Mais disons que globalement, Casey Neistat a été et est toujours une très grosse source d'inspiration. J'adore sa manière de travailler, sa créativité. Enfin, tu vois, tu prends aujourd'hui l'attaque des clones de MrBeast. Pour moi, c'est pas intéressant, tu vois. C'est tous les mecs qui font tous la même tête sur les miniatures, c'est pas intéressant, c'est pas créatif, tu vois. Pour moi, c'est pas intéressant à regarder. Je comprends que ça marche parce qu'ils ont saigné l'algorithme, ils ont compris chaque détail de la rétention, de l'attention. C'est de la science en fait, mais c'est pas de l'art. Casey Neistat, c'est de l'art. C'est un gars qui regarde pas, enfin, tu vois, il a jamais étudié l'algorithme de sa vie. Il fait juste les vidéos qu'il a envie de faire, il s'amuse, il essaie de créer des trucs qui n'ont pas été faits avant, il essaie de créer un dynamisme. Ça marche parce que c'est créatif, tu vois. Et ça fait moins de vues que MrBeast, mais c'est tellement mieux et il laisse un héritage qui est tellement plus important, tu vois. Donc moi, c'est ce genre de personne. Donc Casey Neistat, énorme inspiration. J'adore ce qu'il fait et je serai toujours fan de ce mec-là pour cette raison. Ensuite, il y a des personnes qui m'ont inspiré par leur état d'esprit. J'aime beaucoup par exemple Antoine de Maximi, tu sais, c'est le mec de J'irai dormir chez vous. C'est quand même le mec qui a inventé le vlog, hein. On l'oublie,
c'est vrai.
Hein. Mais en 2004, le mec se baladait dans des pays étrangers avec une caméra qui filme sa tête, une caméra qui filme devant lui. Il allait à rencontre des gens, le but c'était de dormir chez eux. C'était un vlog, hein. Un vlog avant l'existence de YouTube.
C'est vrai.
Donc ce type-là n'a pas assez de crédit, tu vois, pour ce qu'il a fait. Il devrait être connu dans le monde entier pour ça. Et ce que j'adore, lui aussi il m'a pas mal inspiré en termes de création de contenu parce qu'il a une approche qui est super ouverte, c'est-à-dire qu'il part à l'aventure, tu sens qu'il s'amuse, il va vers les gens, il a pas d'a priori, il a pas de préjugés, il ose, il a du culot aussi et il l'envoie. Et en fait, à chaque fois que je suis déprimé, je regarde un épisode de J'irai dormir chez vous parce que ça me donne le smile, tu vois, le message. Et c'est même pas volontaire, c'est-à-dire que lui, son but c'est pas d'envoyer un message particulier, mais le message qui se dégage de ses émissions, c'est que peu importe où tu vas sur Terre, tu trouveras toujours des humains sympas et accueillants. Tu auras toujours des cons, mais tu auras toujours aussi des humains sympas et accueillants. Et c'est un message qui, je trouve, est super positif et qui fait un bien fou, surtout aujourd'hui. On a l'impression que tout le monde se fait la guerre. Et donc, j'aime ce genre de créateur, tu vois. Vraiment, j'aime. Et puis, c'est un gars aussi, c'est aussi un artisan. C'est comme Casey Neistat, hein. Ces mecs-là ne peuvent pas être plusieurs à créer. C'est pas possible, tu vois. Casey Neistat, il avait toute une équipe et tout pour monter sa boîte à côté, mais il a toujours fait ses vidéos tout seul, hein. Il passait sa nuit à faire ses montages. Enfin, c'était vraiment un artisan. Il craftait le truc avec ses mains. Et ben, Antoine de Maximi, c'est quand même le seul mec qui faisait une émission télé récurrente, qui faisait plusieurs millions d'audience, tout seul, quoi. Il partait tout seul. Évidemment, il y avait des gens derrière qui faisaient le montage, mais il partait tout seul à l'aventure. Vraiment tout seul, quoi. Personne fait ça. Tous les récits de voyage et tout, t'as toujours une équipe tout autour, il la cache bien, mais elle est là. Moi j'aime pas, tu vois. J'aime pas quand tu sais que c'est du show et tu. Mais moi, je peux pas m'empêcher de penser au fait que, ah oui, mais ils ont dû quand même toquer à la porte avant pour faire signer le papier et tout. Donc tout ça, tu sais que c'est une mise en scène quand tu regardes une émission, même quand ça s'appelle télé-réalité, c'est une mise en scène. Antoine de Maximi, c'est pas une mise en scène. Ce qu'il explique lui-même, c'est qu'il dit, bah, je vais chez les gens, je fais vraiment des rencontres spontanées. Et la différence, c'est qu'au lieu de leur demander de signer le papier avant, je leur demande de signer le papier après les avoir filmés. Ce qui fait que la rencontre est spontanée. Et ça, j'adore cette recherche de vérité. Et c'est ça qui fait que l'émission est intéressante. C'est justement qu'elle n'est pas orchestrée, quoi. Donc, il y a lui. Si je devais citer une troisième personne, en ce moment, je suis pas mal inspiré par un... Alors, il y a pas mal d'auteurs, Tim Ferriss qui m'a beaucoup inspiré, Ryan Holiday, Mark Manson. Il y a un auteur en ce moment que j'aime bien. Alors, pourtant, j'ai pas tellement lu cet auteur, mais j'aime bien juste sa philosophie, c'est Seth Godin. Pourquoi ? Parce que déjà, il est là depuis longtemps, donc il a passé l'épreuve du temps. Ensuite, c'est un auteur extraordinairement prolifique. Il écrit un article par jour sur son blog depuis, je crois, 2002 ou 2004. Enfin, c'est hallucinant, ça fait plus de 8000 articles. Il sort un bouquin par an depuis 20 ans. Donc, c'est un auteur extrêmement prolifique, extrêmement stable, en dehors des tendances. Il n'a jamais explosé, mais en même temps, il n'a jamais disparu. Il est toujours là, il a toujours sa fanbase. Et donc, pour moi, au-delà du fait que je ne suis pas fan non plus de cet auteur parce qu'il est très théorique, ça manque un peu de pratique. Enfin, voilà, ce n'est pas forcément mon style. Mais je suis, pour moi, c'est mon modèle en termes de façon de travailler, de parcours. Je pense que c'est vraiment le modèle qui fait que tu peux tenir une carrière jusqu'à 60 ans et pas être sans arrêt en train de courir après le dernier truc qui brille et jamais être capable de construire quelque chose de grand parce que tu recommences tout de zéro à chaque fois.
Et le point commun entre ces trois personnes, c'est que le contenu qu'ils créent, c'est complètement intemporel.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Tu vois ?
Ouais.
Ouais, que ce soit Casey, Antoine de Maximi ou...
J'irai dormir chez vous, tu peux regarder un épisode de 2004. La qualité
sans
est toute
aucun
pourrie.
Problème, 360p,
mais...
on s'en fout.
Exactement, c'est intéressant quoi.
Ouais.
C'est vrai ce que tu dis. Ouais.
C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné ?
Ouais, c'est une bonne question ça. Il y a des... C'est pas forcément un conseil qu'on m'a donné spécifiquement, mais il y a des choses qui se font dans mon industrie qui fonctionnent pas pour moi, mais tout le monde les fait. Donc ça doit marcher pour les autres, tu vois, j'en sais rien. En tout cas, pour moi, ça fonctionne pas. Par exemple... Le fait justement de s'hyper professionnaliser et de vouloir créer des trucs toujours plus complexes. Je vois ça avec les formations par exemple. Beaucoup, moi c'est un truc vraiment, j'ai l'impression de passer derrière et d'essayer de réparer les pots cassés, tu vois. Parce qu'il y a tellement de personnes dans mon audience qui rêvent de lancer des formations, qui pourraient gagner leur vie dès maintenant en vivant de leur formation, tu vois, qui ont une bonne audience, etc. Mais qui ne le font pas parce qu'on leur a fait croire que créer une formation, c'était comme écrire un bouquin. Et d'ailleurs, même écrire un bouquin, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire beaucoup plus simplement, tu vois. Mais on leur a fait croire que créer une formation, il fallait y passer 3 mois, il fallait faire un truc de 40 heures, il fallait la vendre avec, en grande pompe avec 40 affiliés, un tunnel de vente en 15 étapes. Enfin, c'est pas vrai. Il fallait vendre ça à 3000 balles et endetter les gens et ajouter du coaching dedans. Non, on peut, évidemment qu'on peut faire ça et qu'on peut faire rentrer beaucoup d'argent comme ça, ponctuellement. Mais... tu peux aussi faire ça complètement différemment et voir tes formations. Vraiment, moi, le truc souvent qui débloque mes clients quand je leur en parle, c'est l'image du professeur. T'es un prof, tu vas en cours, tu donnes cours. Ensuite, tu rentres chez toi. Et le lendemain, tu retournes en cours, tu donnes cours et tu rentres chez toi. C'est-à-dire qu'un prof, il produit des heures de formation tous les jours sans s'en rendre compte. Et donc, toi, en tant que formateur en ligne, tu peux fonctionner comme un prof. Qu'est-ce qu'il fait le prof ? Il n'a pas un script. Quand il vient en cours, il se pose devant la classe. Il a quelques bullet points quand même pour rien oublier. Mais il s'exprime naturellement. Parfois, il tousse. Parfois, il a un blanc. C'est pas très grave. Parfois, il se reprend. Parfois, il interagit avec un élève. Et puis, il part un peu dans un autre sujet. Et puis, il revient à son sujet. C'est ça qui fait que le cours est intéressant. C'est que c'est naturel. C'est qu'on a l'impression d'avoir une conversation avec quelqu'un. Beaucoup de gens veulent que leur première formation, ce soit un niveau de formation professionnelle, comme on voit sur Masterclass, par exemple, tu vois, où tu as une équipe de prod derrière, où tout est magnifique, où tout est scripté à la lettre. Et en fait, ils ne la lancent jamais leur formation. Ou alors pire, parfois ils en lancent une, ils cartonnent, donc ils ont l'espoir de pouvoir gagner leur vie avec, ça y est, c'est une nouvelle vie qui démarre, et en fait, ils n'arrivent jamais à lancer la deuxième parce qu'ils sont tellement épuisés à faire la première qu'ils n'ont pas envie de revivre cet enfer. Ma première formation, ça a été ça. Bon, ça n'a pas été des mois non plus, tu vois, mais j'ai passé peut-être un mois à la créer, j'ai souffert, j'ai lancé la formation, j'ai fait 800 balles, tu vois, c'est ma première formation, j'avais une toute petite audience, j'étais quand même content. Et ensuite, j'ai attendu peut-être 6 mois, 9 mois, peut-être un an avant de lancer la deuxième. Parce que je m'étais dit, j'ai pas envie de repasser par là. Et en fait, le jour où j'ai compris qu'une formation, c'était un cours, que la valeur de ma formation, c'était pas le temps que je mettais dans l'enregistrement, c'était l'expérience que j'avais dans le domaine et que j'ai commencé à faire des formations en moins d'une semaine, et qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, le plan, je peux le faire maintenant. J'ai tout dans la tête, je peux faire le plan maintenant, je peux faire le plan en 2 jours, enregistrer en 2 jours et lancer la formation le jour suivant. Ça a tout changé pour moi. Et j'ai pu faire une formation toutes les 2 semaines pendant des années. Aujourd'hui, je suis passé à un modèle d'une formation par mois. Et en fait, c'est ça, c'est la fréquence qui fait la différence. C'est que si demain je lance une formation qui marche pas, 2 semaines plus tard, je peux lancer une nouvelle formation qui cartonne. Et si je lance une formation qui cartonne, je peux reproduire le schéma et puis relancer cette formation plus tard et puis lancer de nouvelles formations qui cartonnent. Et en fait, à la fin de l'année, même si sur un lancement, tu fais pas énormément, quand tu fais une vingtaine de lancements sur un an, en fait, tu peux multiplier tes revenus parce que tu vas avoir les mêmes élèves qui vont racheter. Donc, c'est peut-être ça, je dirais, le plus grand mensonge, en tout cas dans ma thématique, ou le truc, à mon avis, qui bloque la plupart des gens, c'est le perfectionnisme appliqué à tout. Et tu as des créateurs de contenu qui sont très doués là-dedans, qui expliquent à tout le monde que eux, jamais ils vont lancer un contenu si le script n'est pas parfaitement écrit au poil de cul, ce qui bloque énormément de gens. Et en fait, ce que tu t'aperçois, c'est que ces gens-là, souvent, au bout de 6 mois ou d'un an, ils font un burn-out, ils arrêtent tout, ou ils arrêtent de poster des vidéos pendant 3 mois. Et tu vois, et en fait, tu te dis, mais ok, ça a marché à ce moment-là, ils ont impressionné tout le monde, mais est-ce qu'ils seront toujours là dans 10 ans ? Donc moi, je préfère le gars qui est un peu moins perfectionniste, qui lance des choses imparfaites, mais qui dure. Moi, c'est mon modèle et c'est aussi le modèle que je transmets à mes élèves et c'est ça qui m'a débloqué.
Et tu vois, ça s'applique à tout, que ce soit pour le podcast, la création de contenu, la vidéo. Enfin, l'idée, effectivement, c'est de se lancer et de progresser en faisant.
Exactement.
Que d'attendre le moment où tu seras prêt. Et en fait, ce moment n'arrivera jamais et tu seras triste que ce moment n'arrive jamais, tu vois.
Exactement. Il faut accepter, surtout au début, de produire du travail qu'on a parfois du mal à regarder et de le publier, et d'accepter de le publier. En fait, plus tu vas accepter... Moi, mes premières vidéos, c'est la catastrophe. Et je les ai laissées en ligne sur YouTube. Et en fait, le fait de les revoir, je me dis, OK, j'ai mis ça en ligne. Je savais que tout le monde allait me juger. J'étais encore au lycée quand j'ai fait mes premières vidéos. J'étais dans donc, mes potes de lycée allaient pouvoir la voir. J'étais dans ma chambre d'ado avec ma peluche marsupilami derrière. Enfin, c'était pas sérieux, quoi. Mais en fait, je me suis dit, si j'avais pas fait ça, est-ce que j'aurais fait la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième? Il fallait passer par ce ridicule. Il faut passer par une phase de ridicule. Sinon, en fait, tu deviens jamais bon, quoi.
C'est clair. On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions. À chaque fois, t'as évidemment le temps d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux?
Le truc qui m'aide le plus, c'est la lecture. Quand je sais pas, c'est une sorte de solution à l'anxiété. Quand t'es un peu stressé, quand t'es pas très bien. Tu vas sur Twitter, par exemple. Donc ensuite, t'es stressé, t'es pas bien. Tu lis un bouquin, ensuite ça va mieux et t'es détendu. Quand tu lis des trucs qui sont déconnectés du moment présent et qui sont long format, j'ai remarqué surtout ça, tu vois, consommer du contenu qui n'a pas été créé instantanément, qui parle pas de ce qui se passe en ce moment et qui est long format, c'est un truc qui te met dans un état de détente très efficace. Après, il y a le sport, marcher, courir, ouais. Ce genre de truc, tu vois.
Ça revient souvent.
C'est pas très original, hein, mais c'est...
mais c'est efficace.
C'est scientifique, quoi.
Exactement.
Ça marche.
Il y a 3 ans et demi, je t'avais demandé une question qui était un peu bête. Est-ce que t'as encore des rêves? Et tu m'avais répondu, j'ai toujours besoin de défis. J'ai envie de raconter une belle histoire. Aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand rêve?
Moi, je pense que je vais te répondre la même chose. Hein. En fait, si tu veux, aujourd'hui, je suis plus dans cette démarche-là de vouloir réaliser des grands rêves ou des grandes choses. Je suis dans la démarche de vouloir sauvegarder et durer. Et donc, c'est plus une recherche de paix, tu vois, que d'accomplissement spectaculaire. Je cherche pas le spectacle. Tu vois, ça fait 10 ans que je crée du contenu. Je sais que... En fait, il y a même des choses qui me font peur, tu vois, quand je vois des créateurs qui explosent, ça me fait pas forcément envie. Parce que tu dis, ça veut dire grosse notoriété très rapidement, ça veut dire des gens qui te suivent, mais, ou alors qui te voient, qui savent qui tu es, mais qui ne savent pas ce que tu es, qui ne connaissent pas ta philosophie parce qu'ils ont juste vu passer ta tronche, tu vois, qui te connaissent sur peu de choses. Enfin, pendant un an, tu vois, j'ai posté sur TikTok, par exemple, et j'étais pas bien sur TikTok. Parce que, en fait, la plupart des gens qui voient passer ton TikTok, ils n'ont même pas choisi de cliquer dessus. C'est des gens qui ne te connaissent pas, ils se font un avis sur toi sur 30 secondes de contenu. Je me sentais pas à l'aise, tu vois. Je préfère tellement faire un long vlog qui va être vu par 10 fois moins de personnes que le TikTok, mais des gens qui me connaissent, qui s'intéressent, qui me suivent depuis longtemps. Je préfère travailler en famille, c'est tellement plus agréable. Donc aujourd'hui, j'ai pas de rêve de faire des choses spectaculaires ou de devenir célèbre ou de me faire remarquer d'une manière ou d'une autre. J'ai plus envie d'avoir une vie qui a du sens, de construire quelque chose qui me rend fier. C'était probablement déjà ça, ouais. Quand on s'est vu la première fois, tu vois. Mais d'avoir quelque chose d'aligné. J'en suis là, tu vois, maintenant.
Et à l'inverse, c'est quoi ta plus grande peur?
De plus être capable de faire ce que je fais, de plus être capable de réfléchir, de plus être capable de créer. C'est pour ça que je me méfie énormément de... Enfin, tu vois, tout ce qu'il y a aujourd'hui avec le défi de l'attention. Quand tu vas sur TikTok aujourd'hui, t'as quand même des vidéos d'une personne qui te raconte une histoire super prenante, mais c'est pas assez prenant pour regarder les gens devant la vidéo. Donc l'image de la vidéo, c'est un jeu, tu vois, qui va dans tous les sens, ça va avec des pièces, des machins qui tombent et tout. Et en fait, tu dis, ce niveau de surstimulation de l'attention, on le sait, hein, on sait à quel point c'est dangereux, c'est toxique, etc. Et je pense que ça nuit pas seulement à notre attention, ça nuit pas seulement à notre capacité à rester focalisé sur un sujet longtemps, ça nuit de manière globale à notre intelligence. Et quand je sens que j'ai passé trop de temps sur ce genre de contenu, que je sens mon intelligence qui décroît, tu vois, ou ma capacité à réfléchir, à me concentrer qui décroît, ça me fait très peur, tu vois. J'ai pas envie de finir comme une sorte de légume intellectuel qui consomme, qui consomme, qui consomme et qui n'est plus capable de faire le tri, de réfléchir, de hiérarchiser et de produire. Et donc, j'ai arrêté complètement les réseaux en feed, par exemple. Donc, tous les réseaux où tu scrolles, j'ai arrêté d'aller sur Instagram, j'ai arrêté d'aller sur TikTok, j'ai arrêté d'aller sur Twitter, j'ai supprimé mon compte Twitter, j'ai arrêté d'aller sur Facebook, enfin, toutes ces plateformes-là. Je continue à aller sur YouTube, mais pour regarder des vidéos que j'ai vraiment choisies, tu vois, plutôt du format long. Et j'essaye vraiment de protéger cet aspect de ma santé, comme je pourrais éviter la malbouffe ou faire du sport pour améliorer ma longévité, tu vois. J'ai pas envie de vivre vieux, mais incapable de réfléchir, ça m'intéresse pas. Donc aujourd'hui, j'accorde autant d'importance, si tu veux, à la préservation de mon mental que à la préservation de mon physique. Donc c'est ça ma plus grande peur, tu vois, c'est de plus être capable.
Si tu devais ramener 3 choses sur une île déserte, ce serait quoi ?
Il y aurait des trucs de survie quand même, tu vois, peut-être. Genre, tiens, un briquet, une tente, à la limite, un couteau. Mais bon, admettons que ça, j'ai pas besoin. Je prendrais ma Kindle, tu vois, avec plein de livres dessus. Comme ça, j'ai de quoi me divertir et bon, pendant un mois, quoi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie. Ah bah tiens, un petit panneau solaire pour recharger la Kindle, du coup. De quoi écrire, peut-être.
Ouais, ok. C'est quoi l'achat de moins de 100 euros qui t'a impacté le plus positivement ces 6 derniers mois?
C'est dire, ça, c'est des questions. L'achat de moins de 100 euros.
Sont t'as le temps d'y réfléchir?
Bah, c'est sûrement un bouquin. Hein. Mmh. Ouais, je dirais le bouquin. Bah, pour rester sur la thématique du focus. Il y a un bouquin qui s'appelle Stolen Focus que j'ai dévoré là, pendant que j'étais en train de voyager là, il y a un mois, qui t'explique justement tout ça, qui t'explique comment c'est une bataille en fait aujourd'hui de garder ton attention. Pas seulement d'ailleurs à cause des réseaux sociaux, il y a d'autres facteurs, hein, le manque de sommeil, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Et ça a été, tu vois, il y a des livres parfois qui t'ouvrent les yeux sur un sujet. Tu n'avais pas encore compris l'importance de ce sujet-là. J'aime bien, tu vois, quand il y a un auteur qui est capable de dire ah ouais, mais ça aussi c'est important. Toi, t'es là, ah ouais, j'avais jamais vu. Donc ouais, c'est un bouquin. Généralement, la plupart des trucs de moins de 100 euros qui changent ta vie, c'est des
ouais,
bouquins, tu vois.
C'est clair.
C'est pas en pas cher un bouquin pour ce que ça peut t'apporter.
La question d'après, c'était est-ce que t'as un livre à me conseiller, mais du coup, potentiellement, je note cette reco.
Ouais.
Ensuite, est-ce que t'as un film ou une série à me conseiller?
Un film ou une série En ce moment, je regarde rien du tout. Je peux te recommander une BD si tu veux.
Vas-y.
Je suis un peu tombé amoureux du style de Rayad Satouf.
Tu connais? J'adore.
L'Arabe du futur. Il a sorti une nouvelle série qui s'appelle Le Jeune Acteur. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul album, mais il est top. Donc pour l'instant, en ce moment, je suis en train de dévorer L'Arabe du futur. Et je me dis, un mec qui arrive à faire une BD que tu lis du début à la fin. La BD, elle fait cette épaisseur, tu vois. Tu la lis du début jusqu'à la fin, sans arrêt. Tu t'arrêtes même pas pour aller aux toilettes, tu vois. T'as ta vessie qui te fait mal à la fin tellement c'est prenant. C'est à quelqu'un qui a du talent et c'est pas évident de trouver ça, tu vois. Et à la fois, il a du talent parce que c'est prenant, t'es vraiment pris dans l'histoire. Et en plus, il arrive à t'apprendre des trucs, à te faire réfléchir. C'est drôle, c'est touchant, tu t'as de l'empathie pour les personnages, tu t'attaches aux personnages. Donc parfois, tu vois, il y a de la fiction... Voilà, quand tu tombes sur une fiction qui te prend vraiment et que tu t'aperçois qu'il y a genre 6 albums, t'es content, quoi.
Ouais, puis c'est clairement, comme tu dis, la typologie de BD que tu t'ouvres,
ouais.
T'es obligé de la finir.
Exactement. Ouais.
Exactement. Tu peux pas la reposer, etc. Non, tu la termines et après ouais. tu fais autre chose.
Et j'aime bien parce que c'est une bande dessinée, donc ça a été fait par un mec tout seul, quoi. Une série, t'as quand même 300 personnes derrière. Même si souvent, il y a quand même une personne qui chapeaute, une personne qui a aidé. Mais j'aime bien, moi, quand c'est un mec tout seul qui arrive à me faire rêver, tu vois. Je me dis, waouh. Il est fort, quoi. Il y a une sorte de sentiment de respect quand tu lis ça quand t'es face à du pur talent ou un talent en tout cas qui connecte avec toi et que tu dis putain, le mec il a fait ça tout seul et il arrive à me faire passer un moment génial pendant aussi longtemps. Respect, quoi.
Ouais, et puis il est bon, Rayad Satouf.
Il est très bon.
Il est réalisateur aussi. Enfin, ouais, il a fait plein de. Ouais. Puis il a un parcours assez fou. Si tu pouvais racheter n'importe quelle société sans limite financière, ce serait laquelle?
Apple.
Pourquoi j'ai posé cette question?
Apple, il y a tellement de produits Apple que j'ai envie de lancer qui font pas. Il faut qu'ils lancent un vélo, tu vois. Enfin, il y a tellement de trucs qu'ils devraient lancer, tu vois. C'est frustrant quand t'es fan d'une entreprise de pas avoir le moindre. Alors, je suis investisseur, mais je veux pas appeler Tim Cook demain en lui disant t'as pas le moindre contrôle sur ce qui va se passer, donc t'es juste spectateur, t'es comme un supporter de foot. C'est-à-dire que t'es fan du truc, tu suis tout ce qui se passe, mais t'as aucun impact dedans. Et d'un côté, c'est super excitant, et d'un autre côté, c'est super frustrant. Et donc, ouais, si je pouvais avoir de l'impact dedans, moi, j'adorerais être embauché comme consultant, venir dire ouais, ça, je garde, ça, je garde pas, c'est un gros kiff. Je sais pas si ce serait une bonne idée pour la boîte, mais en tout cas, moi, ça serait un kiff.
Ouais, je suis d'accord. Et la dernière question de ce podcast, c'est quoi pour toi un entrepreneur ?
Pour moi, c'est quelqu'un qui a un produit à vendre, tout simplement. Il y a trop... Je trouve qu'il y a trop de définitions d'entrepreneur. Il y a trop de gens qui entrent dans cette catégorie-là et qui ne devraient pas forcément entrer dedans parce qu'en fait... Enfin, moi, j'ai fait une école de commerce et dans cette école de commerce, il y avait toute une typologie d'élèves dont je faisais partie qui voulaient être entrepreneurs parce qu'ils voulaient se balader avec, tu sais, un t-shirt et une veste par-dessus, être cool, avoir plein de rendez-vous, tu vois. Mais ils n'avaient pas de produits, ils n'avaient rien à vendre, ils n'avaient pas envie de faire des trucs, ils avaient juste envie d'être un entrepreneur. Parce que c'était cool à ce moment-là et ça l'est toujours. Beaucoup de gens ont envie d'avoir la vie d'un entrepreneur parce que c'est glamour. Mais la vérité, c'est que ce qui fait d'un entrepreneur un entrepreneur, ce n'est pas glamour. C'est des trucs qu'il fait tout seul chez lui devant un ordinateur. C'est imaginer des idées de produits, c'est faire créer une page de vente, c'est trouver des stratégies pour faire venir des clients... c'est concevoir un produit, enfin, c'est pas glamour, c'est chiant, tu vois. Mais pourtant, c'est ça qui fait un entrepreneur. C'est quand tu fais des ventes et qu'il y a de l'argent qui rentre. Pour moi, une start-up qui ne gagne pas d'argent, c'est pas des entrepreneurs. C'est des start-upers, c'est un autre domaine. Je dis pas que c'est facile, c'est super difficile, les mecs, ils bossent 10 fois plus que moi. Mais si ton argent, il vient d'investisseurs, mais pas de tes clients, et que t'es pas rentable, bah, il y a quand même 9 chances sur 10 que tu passes pas l'année, quoi. Donc pour moi, c'est pas un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un produit, qui fait des ventes, qui est rentable, qui a des coûts et des revenus, quoi, tout simplement.
Bah écoute, ça va être les mots de la fin de ce deuxième épisode avec toi. J'espère que ça t'a plu.
Ouais, beaucoup.
Je trouvais ça très cool.
Les questions étaient très pertinentes.
Bah écoute, c'était vraiment beaucoup de kiff, ce podcast. On mettra tous les liens en description et on se retrouve potentiellement très bientôt sur Serial Entrepreneur. Salut Antoine.
Ça marche. Merci, salut François.
Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez Serial Entrepreneur et que vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite, mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et partager l'épisode à votre réseau. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.